Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, la Sainte Église nous demande en ce moment, avec l'octave de la fête Dieu, de parler évidemment du grand sacrement d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir le sacrement de la Sainte Eucharistie. C'est un sacrement tellement grand, on ne peut pas le comprendre ici-bas. On comprendra, je pense, la Sainte Eucharistie quand il n'y aura plus de messe. On dit que quand il n'y aura plus de messe, on comprendra ce qu'est la messe. Quand il n'y aura plus de prêtre, on comprendra ce qu'est le sacerdoce. Quand il n'y aura plus de confession, on comprendra ce qu'est le confessionnal. Alors, mes bien chers frères, il faut déjà, dès maintenant, arriver à comprendre la grandeur incroyable de ce sacrement. L'Église catholique étant la véritable Église, évidemment la seule Église qui a une proximité pareille avec le Dieu qui l'a créé, le Dieu qui l'a fondé. La Sainte Eucharistie est un sacrement tellement grand qui contient non seulement la grâce du bon Dieu, mais l'auteur même de la grâce, que ce sacrement, que la Sainte Eucharistie est un diamant tellement précieux, si vous voulez, dans l'Église, que le bon Dieu a voulu l'entourer par un double écrin. Il y a deux écrins pour protéger la Sainte Eucharistie. Le premier de ces deux écrins, c'est la Sainte Messe, bien sûr. Le deuxième écrin, c'est le sacerdoce. Les trois choses sont liées. Donc la messe, la Sainte Eucharistie, la sacerdoce. Et ces trois choses sont tellement liées entre elles qu'on ne peut pas toucher l'une d'entre elles sans évidemment toucher les deux autres en même temps. C'est pour ça qu'il faut demander au bon Dieu d'avoir le même amour, je dirais, pour la Sainte Eucharistie, pour la Sainte Messe et pour le sacerdoce. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où cet amour disparaît que tout finira par s'écrouler. Je pense qu'une des raisons principales pour laquelle la nouvelle messe dans l'église de Vatican II a pu s'introduire tellement facilement dans les âmes, surtout les âmes des prêtres, c'est précisément parce qu'il manquait cet amour. L'amour pour la Sainte Eucharistie, l'amour pour la Sainte Messe et l'amour pour notre Seigneur, pour le sacerdoce. Donc il faut demander cet amour. Il faut le demander avec beaucoup d'humilité parce que c'est l'humilité qui le maintient dans cet amour. L'orgueil détruit immédiatement la foi en la présence réelle. Pourquoi ? Parce que la Sainte Eucharistie, c'est d'abord le sacrement de l'humilité extraordinaire de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ non seulement cache sa divinité, mais va aller jusqu'à cacher son humanité même. Il va en quelque sorte se cacher derrière les voiles eucharistiques. Avec nos yeux, on voit que du pain. Avec nos yeux, on ne voit rien d'autre qu'une petite hostie. Et c'est notre foi qui doit intervenir, notre foi à ce sacrifice de la messe, notre foi au sacerdoce, notre foi à la Sainte Eucharistie, qui vont nous faire comprendre justement, ce n'est pas du pain, ce n'est plus la substance du pain, c'est la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il faut que nous comprenions. Et si nous avons, bien chers frères, en nous cette foi, à ce moment-là, nous aurons, un respect énorme dans ces trois choses, la messe, la Sainte Eucharistie et le sacerdoce. Malheur à nous, malheur aux chrétiens qui perdent le respect à l'égard du sacerdoce, à l'égard de la Sainte Eucharistie, à l'égard de l'âme, à l'égard aussi de la Sainte Messe. Vous connaissez cette thèse qui n'est pas de foi, mais qui est cependant, à mon avis, extrêmement vraie. C'est une thèse qui, dans les prémices, oui, date de nombreux siècles en arrière, lorsque les missionnaires catholiques sont arrivés au Mexique, juste après l'arrivée de Cortés, donc au début du XVIe siècle, et après l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe en 1531. Vous savez que les Aztèques adoraient Dieu Soleil. Et en adoration de ce Dieu Soleil, ils pensaient, dans leur folie, qu'il fallait donner du sang humain pour abreuver le Dieu Soleil. Et les missionnaires, ont essayé d'expliquer à ces Aztèques qu'ils n'avaient plus besoin maintenant d'abreuver leur Dieu Soleil avec du sang humain, parce que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ allait remplacer ce Dieu humain. Ce n'était plus le Soleil qu'il fallait, le Soleil matériel qu'il fallait adorer, mais le Soleil de justice, notre Seigneur Jésus. Et les missionnaires leur ont expliqué quelque chose de très beau. Ils leur ont dit, la quantité de sang humain versé dans les rues est inversement proportionnelle à la quantité de sang divin offert sur l'autel. En gros, il leur disait, maintenant que vous avez la Sainte Messe, puisque la foi catholique est arrivée vers vous, maintenant que vous avez la Sainte Messe, notre Seigneur Jésus-Christ verse son sang de façon mystique sur l'autel. Dans le calice, il y a véritablement le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il n'y a plus besoin de sang sur les rues. Et les Aztèques ont réussi à comprendre petit à petit, ils ont mis beaucoup de temps parce qu'il fallait changer toutes ces vieilles habitudes, ils ont fini par comprendre que justement, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ empêcher le sang humain d'être répandu surtout dans les rues. Et on le voit très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Malheureusement, la messe disparaît, la sainte messe disparaît malheureusement de plus en plus. Et du coup, évidemment, le sang des enfants assassinés par l'avortement se répand de plus en plus dans les rues. Donc il faut s'accrocher en quelque sorte à cet instrument de salut qui est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ par la sainte messe et par le sacerdoce. En soi, le sacrement, bien sûr, le plus important, c'est la Sainte Eucharistie. Mais dans la pratique, le sacerdoce est le sacrement le plus important. Pourquoi? Parce que sans le sacerdoce, il n'y a pas de messe, et sans messe, il n'y a pas de Sainte Eucharistie. Donc il faut demander au bon Dieu cette grâce. Eh bien, chers frères, que nous ayons toujours des prêtres. Encore une fois, c'est une autre thèse de théologie qui est aussi très vraie, que la fin du monde arrivera le jour où le dernier prêtre mourra. Pourquoi? Parce que le prêtre donne accès justement à la Sainte Eucharistie. Le prêtre donne accès à la Sainte Messe. Et la Sainte Messe, c'est le renouvellement non seulement du sacrifice de Calvaire. Donc s'il n'y a plus de Sainte Messe, s'il n'y a plus de prêtre pour célébrer la Sainte Messe, en quelque chose, il n'y a plus de moyen d'accès aux grâces que le bon Dieu a prévues, a préparées pour chacun d'entre nous au pied de la croix. Le catéchisme du Concile de Trente qui enseigne très bien qu'au pied de la croix, en quelque sorte, il y a, si vous voulez, pour expliquer avec des mots tout simples, il y a comme une grande malle, si vous voulez, une grande boîte, une grande caisse qui contient en quelque sorte toutes les grâces qui vont être nécessaires pour le monde entier. Et à chaque fois que la prêtre célèbre la messe traditionnelle, il trouve dans cette messe la clé qui va ouvrir ce coffre, et du coup le prêtre va pouvoir utiliser les grâces préparées par avance par notre Seigneur Jésus-Christ le jour de sa passion pour pouvoir les utiliser et les diffuser par la Sainte. Et donc, s'il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de moyen d'ouvrir cette malle, ce coffre contenant toutes ces grâces. Et à ce moment-là, évidemment, ce sera la fin du monde. Donc, il faut demander, mes bien chers frères, il faut demander avec beaucoup d'humilité que le bon Dieu nous garde le sacerdoce et donc, indirectement, avec cela, nous garde la Sainte Messe et nous garde la Sainte Eucharistie. Pourquoi? Parce que la Sainte Eucharistie, c'est tout le miracle de la transsubstantiation. Un mot qui a été inventé par le Concile de Trente, justement, pour expliquer ce mystère insondable de la disparition de la substance du pain, de la substance du vin, qui disparaissent totalement, qui sont remplacées par la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous recevez la Sainte Eucharistie, eh bien, vous recevez non pas simplement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que par la force du sacrement, c'est le corps qui est là. Et puisque notre Seigneur Jésus-Christ est maintenant au ciel avec un corps glorieux, donc avec ce corps, par concomitance, dit saint Thomas d'Aquin, vous recevez aussi le sang, l'âme et la divinité. De même que dans le calice, après les paroles de la consécration, par la force du sacrement, encore une fois, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, il y a le sang de notre Seigneur, mais par concomitance, il y a également le corps, l'âme et la divinité. C'est donc tout notre Seigneur Jésus-Christ que nous recevons, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la Sainte Messe, en quelque sorte, nous renouvelons littéralement le mystère de l'incarnation. Comment cela? Mais tout simplement parce que au moment de l'incarnation, qu'est-ce qui s'est passé dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie? Au moment de l'incarnation, notre Seigneur Jésus-Christ est venu unir sa divinité avec l'humanité de notre Sainte Vierge Marie. Donc dans la personne du Christ, vont se trouver mêlés étroitement, tout en étant absolument complètes des deux côtés, et la divinité et l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ étant à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et bien à chaque fois que l'on communie, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que l'on communie, bien sûr en état de grâce, sinon cette union ne peut pas se faire. À chaque fois qu'on communie un état de grâce, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir cette union entre la divinité et l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons unir notre nature humaine, d'une certaine façon, à la divinité qui nous est donnée par la Sainte Eucharistie, et cette Union va littéralement diviniser l'individu. Évidemment, il faut comprendre cela dans le bon sens du terme. Saint Augustin allait aussi loin de dire qu'il osait jusqu'à dire que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Bien sûr, faire attention à ne pas tomber dans le panthéisme. Donc, il faut interpréter, bien comprendre la phrase, mais elle est très vraie. C'est-à-dire que par la Sainte Eucharistie, quand je suis en état de grâce, je divinise mon âme. Si au contraire, je reçois la Sainte Eucharistie sans être en état de grâce, ou de diviniser mon âme, ce n'est pas avec notre Seigneur Jésus-Christ que je vais unir mon âme. Cette fois-ci, je vais unir mon humanité avec littéralement la nature du démon. Et donc, il faut demander, eh bien, chers frères, il faut demander cette grâce au bon Dieu, de savoir toujours utiliser la Sainte Eucharistie pour renouveler en nous le mystère de l'incarnation. De la même façon que la Très Sainte Vierge Marie était véritablement mère à la fois de l'humanité de notre Seigneur et de la divinité, de la même façon, lorsque nous communions l'état de grâce, nous renouvelons en quelque sorte le mystère de l'incarnation. C'est quelque chose d'incroyable. Si nous avons compris cela, à ce moment-là, nous comprendrons l'extraordinaire dignité du chrétien, justement, qui a ce pouvoir d'unir son humanité avec la divinité. Toute la dignité du chrétien vient de là. Le chrétien n'est pas digne à cause de son humanité. Le chrétien est digne parce que cette humanité contient en elle, en quelque sorte, une certaine puissance à recevoir la divinité. Et toute la grandeur du chrétien vient de là. C'est de là que vient sa divinité, que vient sa dignité. Quand on nous parle aujourd'hui constamment des droits de l'homme, de la dignité de l'homme, mais qu'on coupe justement l'homme de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien évidemment, par la force des choses, on détruit la dignité même de l'homme. Donc il faut demander au bon Dieu cette grâce, mes bien chers frères, de savoir utiliser plus que jamais correctement la Sainte Eucharistie. Encore une fois, c'est lorsque nous n'aurons plus la possibilité de communier, ces jours-là nous comprendrons la grandeur de la Sainte Eucharistie. Et donc soignez, mes bien chers frères, soignez vos actions. Je vous félicite, ça fait vraiment plaisir de voir que la plupart d'entre vous le faites déjà en restant un petit peu après la messe pour justement soigner votre action de grâce. Mais c'est, imaginez un enfant, si vous voulez, qui reçoit un cadeau merveilleux de ses parents et qui ne cherche même pas à remercier ses parents du cadeau reçu. Qu'est-ce que vont faire les parents? Ils vont prendre le cadeau parce que l'enfant n'est pas digne de le recevoir. C'est un peu la même chose pour nous. Si nous recevons ce cadeau extraordinaire qui est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes même pas capables de remercier le bon Dieu pour un cadeau aussi fantastique, eh bien le bon Dieu ne reviendra plus nous donner ce cadeau qui est lui-même. Donc il faut demander cette grâce de savoir soigner nos actions de grâce. Lorsque on veut savoir le degré, je dirais, le degré de ferveur d'une paroisse, je pense que c'est là qu'il faut regarder. Quand j'arrivais avant, quand j'étais un missionnaire, je voulais savoir à peu près la ferveur d'une paroisse que je ne connaissais pas encore, d'une chapelle que je ne connaissais pas encore. Je regardais quel était le pourcentage de gens qui restaient en action de grâce après la messe. Il y a bien un cœur, c'était vite compté. Il n'y a pratiquement pas. Au contraire, quand on voit une paroisse qui prend son temps après la communion, de s'unir à, de continuer cette union avec notre Seigneur Jésus-Christ par une action de grâce sérieuse, il y a de fortes chances que notre Seigneur Jésus-Christ vive vraiment dans cette paroisse. Donc utilisez, vous connaissez tous cette petite formule qu'on utilise pour les enfants, les cinq lettres du mot Ardor, A-R-D-O-R, qui nous aide à faire une action de grâce correcte. A pour adoration, R pour remerciement, D pour demande, O pour offrande et R pour résolution. Toutes les choses qu'il faut faire dans l'action de grâce. Le plus important, c'est l'adoration. Tomber en adoration pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ les forces dont on a besoin. Vous pouvez aussi, pour faire votre action de grâce, utiliser les quatre fins de la messe. Utiliser les quatre fins de la messe parce que notre âme, notre cœur, quand on est en état de grâce, c'est comme un autel. Et de même que notre Seigneur Jésus-Christ vient sur l'autel physique, sur lequel la Sainte Messe est célébrée, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ va venir dans l'autel, sur l'autel de notre cœur. Et donc, on peut utiliser les quatre fins de la messe pour justement faire son action de grâce. On retrouve un peu les mêmes idées, d'abord avec la fin d'adoration, la fin latrotique. Donc, la première chose à faire, après avoir reçu notre Seigneur, c'est l'adoration. Tomber à genoux en adoration devant notre Seigneur Jésus-Christ qui daigne venir dans. dans une âme, si vous voulez, qui est d'un certain côté infiniment petite. Le bon Dieu accepte de se cacher pour entrer dans cette âme. Puis la fin, qu'on appelle la fin eucharistique, la fin d'action de grâce pour remercier le bon Dieu pour toutes les grâces reçues. Il faut penser à remercier. Malheur aux enfants qui ne savent pas remercier leurs parents après avoir reçu quelque chose. De la même façon, malheur au chrétien qui n'est pas capable de remercier ses parents, qui n'est pas capable de remercier son Dieu qui vient en lui. Puis la fin impétratoire. Fin impétratoire, c'est la fin de demande. Donc utilisons l'action de grâce pour demander les grâces dont nous avons besoin. Si nous connaissons nos péchés, nous connaissons nos défauts, nous connaissons nos mauvaises tendances, certes nous sommes confessés pour les atténuer au maximum, mais il faut demander au cours de la Sainte Messe, demander au bon Dieu d'avoir cette force de mater la révolte de la chair, de mater les concupiscences. Et enfin, il faut aussi utiliser la fin propitiatoire, peut-être la plus importante. C'est de loin celle qui est la plus importante, c'est celle qui est niée par tous les modernistes et tous les protestants. Fin propitiatoire, c'est quoi ? C'est offrir la messe en réparation de nos péchés. Car il nous est dit dans la Sainte Écriture qu'il faut achever ce qui manque à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la passion est incomplète. Et donc la meilleure des choses, la première chose qu'on peut faire justement dans une action de grâce, c'est offrir le Dieu qu'on vient de recevoir en réparation pour tous nos péchés. Il faut en quelque sorte que Dieu, si vous voulez, que l'action, que la Sainte Eucharistie que nous venons de recevoir, achève la purification totale de nos péchés, de nos âmes. Comme si vous voulez, c'est un feu dévorant, rentrez dans cette âme et finissez de nettoyer complètement toute l'âme. Et à ce moment-là, toutes les choses se mettent en place. Voilà, bien chers frères, ce qu'il faut méditer. Il faut comprendre par tous ces points, justement, la grandeur extraordinaire de la Sainte Eucharistie. Et demander au bon Dieu la grâce de savoir l'utiliser. Souvent, les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, je ne communie pas parce que je ne suis pas digne de communier. Je peux vous dire une chose, si vous attendez d'être digne pour communier, vous pouvez attendre longtemps. Parce que personne n'est digne de communier. Pas même la très Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie elle-même n'était pas digne de communier. Et pourtant, le bon Dieu, encore une fois, le bon Dieu n'a jamais donné comme condition pour la communion, qu'il ne nous a jamais donné comme condition d'être digne. Il demande d'être un état de grâce, pas pareil. Pour l'état de grâce, première condition, deuxième condition, l'intention droite, et troisième condition, la partie du jeûne eucharistique. Donc 3 heures avant la communion pour vous et pour moi le prêtre, 3 heures avant le début de la messe. Donc il faut demander au bon Dieu de savoir utiliser tous ces dons. À l'heure justement aux âmes qui sont frivoles, qui sont tièdes, qui sont de plus en plus fragiles, justement parce qu'elles ne savent pas ou ne veulent pas utiliser ce don extraordinaire que le bon Dieu nous a donné par la Sainte Eucharistie. Et si nous avons parfois un petit peu peur de recevoir notre Seigneur, parce qu'on ne sait pas très bien comment s'occuper de lui, ben passons par la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie et sa mère s'occupaient de lui de façon très tendre pendant 33 ans, donc elle sait très bien comment s'en occuper. Donc faisons venir, avant de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme pour la Sainte Communion, faisons venir la Sainte Vierge Marie, mettez-la dans votre âme. Et si la Sainte Vierge Marie est dans votre âme, elle vous expliquera ce qu'il faut faire pour le recevoir avec dignité. Elle vous dira peut-être encore certaines petites choses à modifier dans la maison pour être sûr que tout soit propre, tout soit parfait pour recevoir son Fils. Et le Fils, quand il va venir, notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils, à ce qu'il va venir dans cette âme, il va voir qu'elle est déjà habitée par la Sainte Vierge. Et donc il va se savoir immédiatement en pays connu, parce que sa mère est là. Et là où la mère, le Fils restera plus longtemps, c'est évident. Donc la meilleure façon peut-être de garder notre Seigneur Jésus-Christ plus longtemps dans notre âme, c'est de prendre soin d'avoir cette grande dévotion mariale, et de garder Notre-Dame, de demander à Notre-Dame, Notre-Dame, notre Mère du Ciel, de venir en notre âme avant de recevoir son divin Fils. Elle nous donnera surtout la force de ne jamais nous décourager. Je sais si les occasions de découragement sont grandes aujourd'hui. Demandons justement au bon Dieu de jamais, jamais nous décourager et de continuer ce combat pour que nous soyons en état de grâce et nous puissions aider nos enfants à être en état de grâce pour qu'un jour, tous ensemble, nous puissions nous retrouver au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.